Bon, on parlait de sobriété quand même. Fierté Montréal cette année, c'est une 17e édition, puis toute une édition, pas une émission en toute sobriété, en tout cas, qu'on va dire. Un grand vent de renouveau, puis moi, je dirais pas juste un petit vent, un gros vent. Simon Gamarche est directeur général de Fierté Montréal et Chris Ngaboziza est directeur de la programmation. Bienvenue à vous deux à l'émission.
Bonjour.
Bonjour.
Salut Denis, comment vas-tu?
Ça va bien, ça va bien. On utilise les pronoms masculins, les accords masculins avec toi,
oui,
Simon.
Et lui.
Oui. Idem pour toi, Chris. Je commence par toi, Simon, parce que c'est la première fois qu'on se parle en tant que journaliste et en tant que directeur général depuis ce qui s'est passé. Donc, justement, je voulais parler de l'éléphant dans le studio.
Oui.
C'est ni un ni l'autre de nous, là. Alors, je veux parler de l'affaire du défilé annulé de l'an dernier.
Oui.
Je t'avais promis de ne pas passer l'entrevue sur ça parce que ce n'est pas intéressant pour toi. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut tourner la page. Mais au-delà là, du rapport Schnob, qui a fait état d'un quid pro quo, qui a mené à tout ça. Toi, comment as-tu vécu la dernière année? Surtout, commençons par cet événement-là. Comment as-tu vécu ça?
Ben, je pense, je ne suis pas sûr que c'est très intéressant de parler de moi, parce que c'est une équipe au complet qui a vécu ça. Puis au-delà de ça, c'est les communautés qui l'ont vécu aussi. Ça a été difficile pour tout le monde, cette histoire-là. Oui, comme c'est pas tout le monde qui a lu le rapport Schnob, il y a eu des erreurs. Puis des erreurs, malheureusement, c'est humain. Puis des fois... malheureusement, au travail, il y a souvent des erreurs qui se commettent, puis, mais c'est rare qu'elles sont aussi publiques que ça.
Ouais.
Et puis, ben après ça, il faut apprendre de tout ça. On a beaucoup appris de ça. Mais je peux te dire, ça a été très, très dur à l'interne. On l'a vécu ensemble, toute l'équipe. Puis une affaire que je suis très, très fier, c'est que tout le monde est resté.
Mais il n'y a pas eu de démission en bloc?
Il n'y a pas eu de démission en bloc. Toute l'équipe administrative est restée. Puis même, on a beaucoup de contractuels avec qui on travaille, puis les gens voulaient revenir. Puis je dirais que depuis, en fait, dès les journées après, on le sentait. Les gens se sont dit, on veut aider. Puis pas seulement le personnel, mais même nos partenaires se sont dit, on veut être là. Fait qu'on revient cette année non seulement avec, l'équipe est restée intacte. On est allé aussi, je ne le cacherai pas, on a quand même fait on a repensé la structure de production d'opération. Il fallait repenser tout ça. L'organisation, ça a peut-être un petit peu mal vieilli, tout ça, fait qu'il fallait un peu...
Oui, parce qu'il y avait quand même des choses importantes dans le rapport. Moi, je me rappelle, on parlait de structure de gestion, pas de gestion, mais de gouvernance, puis de plan d'urgence. J'imagine que ça...
Ben, tout ça a évolué. Depuis 9-10 mois, là, en fait, ça avait déjà commencé. Il y a un nouveau conseil qui était rentré en poste en 2020-21. Moi, je suis arrivé à l'automne 2021. Fait qu'on avait déjà commencé beaucoup de la transformation de l'organisation. Alors, c'était déjà bien parti. Il y a des choses qui sont dans le rapport Schnob par rapport à la gouvernance qu'on savait. Il y avait des choses qu'il fallait faire évoluer. Le CA était au courant. J'étais au courant. Fait qu'on a continué ça, on a accéléré ça. Fait qu'on arrive aujourd'hui, oui, là, on a lancé la programmation. Ça, c'est bon, ça, c'est l'aspect très public de la chose. Mais, disons, je veux pas diminuer la programmation et l'image de marque, mais c'est la carrosserie. Mais aussi, c'est le moteur qu'on a remplacé.
Mmh.
C'est plus qu'un changement d'huile qu'on a fait. Puis je ne conduis pas, j'ai pas de permis de conduire, fait que je ne sais pas de quoi je parle. mais c'est ça qu'on a fait. L'équipe est restée intacte. Puis aussi, on est très content parce que la totalité de nos partenaires sont revenus aussi. Puis on développe
des nouveaux partenaires. On va y revenir à ça. Je t'ai quand même posé la question personnellement parce que je me dis, j'ai pas remarqué que tu avais plus de cheveux blancs que l'an dernier. Là, je sais.
Bon, j'ai pas mal la même couverture de cheveux blancs depuis la fin de la vingtaine. Ça n'a pas beaucoup évolué. mais ça a été extrêmement difficile au point de vue au plan personnel. J'ai eu la chance que on me dit que ça a été très violent par rapport à moi un peu partout dans
On a demandé ta démission.
Oui, sais. Puis le matin même, alors que j'essayais encore de régler, les journalistes me demandaient est-ce que vous avez démissionné. Puis à ce moment-là, j'avais dit regardez, là, je pense que j'ai été embauché pour transformer cette organisation-là, la faire avancer. Puis je pense que je suis encore la bonne personne. Je disais ça le matin même, là, c'est tout. Puis j'ai eu quand même, c'est sûr que. On se questionne, des choses comme ça arrivent, on se questionne, qu'est-ce que j'aurais pu faire différent, tout ça. J'ai eu à me regarder dans le miroir, dire, OK, est-ce que je suis encore la bonne personne? Ma première affaire, c'est, est-ce que c'est moi qui ai commis des actes répréhensibles ou qui ont causé ça? La réponse, c'est non. Puis après, la deuxième question, c'est, est-ce que je suis la bonne personne pour continuer? Je pense que oui. Puis troisièmement, est-ce que j'ai le goût de continuer? Oui, j'ai le goût de continuer parce que ça vaut la peine. C'est plus gros que moi, c'est plus gros que l'organisation. Fait que c'est ça. Fait que je suis resté. J'ai peut-être pas de cheveux blancs en plus, mais j'avouerai que c'était très dur pour ma santé physique et mentale. Mais bon, on se fait accompagner. Puis encore une fois, j'ai une super équipe autour de moi. Donc, Chris qui est,
donc
avec,
Chris
moi.
Qui est avec nous. Ouais. Et justement, j'étais pour... parce que j'ai dit chose première, chose due. J'avais dit deux... On a fait trois questions, finalement, c'est ben pas oui. si pire. on va pas passer toute l'entrevue là-dessus parce que c'est important ce qui se passe. Mm. Et je l'ai dit un peu plus tôt, Fierté Montréal fait un grand coup. On dirait un grand coup de balai avec sa programmation. Mm. Va-t-on oublier l'an dernier et aussi les deux années d'avant qui ont été particulièrement difficiles avec la COVID?
Écoute, au niveau de la programmation, je vous avoue que c'est une de mes plans de faire oublier les gens, que ce soit la pandémie ou l'été passé. Mais si c'est au niveau de la programmation, ta question, mais oui, on a travaillé super fort, on a une vision assez large et vous allez voir, la programmation cette année est très dynamique et pour vrai, c'est sûr qu'elle va jamais être parfaite, mais on essaie vraiment de... qui est quelque chose pour tout le monde, pour les gens de la communauté en tout cas. Ouais.
Oui, Simon?
Ben, j'aimerais ajouter, parce que bien sûr, on a beaucoup parlé du défilé, puis le défilé, c'est le cœur de Fierté oui. Montréal, c'est sûr et certain. Mais l'année passée, là, on a attiré 200 000 personnes.
Oui.
200 000 personnes qui sont venues au Parc olympique, dans le village, aux conférences, un peu partout. Il ne faut pas oublier ça. Puis l'année passée, Chris était à la programmation, puis Chris avait déjà fait un travail vraiment exceptionnel pour commencer à transformer la programmation. Je veux juste pas qu'on l'oublie parce que oui, il y a cette tâche-là qui est énorme par rapport au défilé, ouais. Mais moi, je suis très, très fier de ce qu'on a fait l'année passée puis que toute l'équipe a fait. Il faut vraiment pas l'oublier, ça.
Absolument. L'artistique, je pense, c'est oui, on a eu ce bad luck de l'annulation du défilé, mais pour ce qui s'est passé à l'esplanade au Parc olympique, on a comme un peu battu tous les records. Fait que c'était quand même...
Il y avait des shows absolument incroyables. Ouais. Incroyables. Moi, je pense toujours là, le show avec... les deux drag kings, le nom du
oui,
show de
Majestique.
Oui. Il y avait eu le show avec Diane Dufresne. Moi, j'étais presque tous les soirs là-bas ouais. Et j'animais ici le matin. Alors, ouais. Ben, écoute, commençons aussi avec le contexte cette année. Mm-hmm. Depuis le début de l'année, aux États-Unis, 400 projets de loi ont été déposés ou adoptés, des projets de loi anti-queer, notamment anti-trans et anti-drag queen. Il y a des pays comme l'Ouganda où c'est épouvantable ce qui se prépare là. Il y a même ici au Québec, là, puis je pense que moi, je vais le nommer, il y a des gens comme Éric Duhem, il y en a d'autres aussi, qui mm-hmm. font vraiment du tapage sur notre dos. Comment ça joue, ça, dans votre réflexion? Parce que j'imagine que ça joue quand on fait une programmation. Comment ça a fonctionné, tout ça?
Ben, d'un point de vue programmation, c'est sûr que, bon, on le voit là encore récemment, il y a une drag queen qui va lire un conte dans une bibliothèque, puis une manifestation. Fait qu'imaginez, nous autres, on arrive, puis c'est pas une drag queen dans une bibliothèque, là. C'est 150-200 artistes qui vont présenter devant des centaines de milliers de personnes.
Exactement.
C'est d'une toute autre ampleur. Donc, c'est sûr qu'il faut... C'est sûr qu'il y a des enjeux de sécurité auxquels on doit penser, auxquels on pense tout le temps. Ça, c'est sûr et certain. Puis, je vais le dire, quand on a décidé de déménager au Parc olympique l'année passée, ça faisait partie de ça aussi, parce que le Parc olympique est déjà semi-sécurisé. C'est une grande structure en béton. Fait que c'est pas un lieu qui est complètement ouvert sur l'extérieur. C'est facile d'y entrer. Fait que c'est sûr que ça jouait aussi dans la décision d'aller au Parc olympique. C'est beaucoup plus sécuritaire. On ajoute une couche. Mais c'est ça. Cette année, on est dans un contexte difficile, mais je n'ai pas donné de consigne à Chris. Chris, mets moins de ci, mets moins de ça. Au contraire, notre job, c'est de visibiliser. Puis exactement. C'est ce qu'on fait dans la programmation. Cette année, 95% des artistes sont 2SLGBTQIA+. On en est très, très fiers. Puis même au-delà de ça, il y a, je pense que c'est 60% des artistes qui sont des personnes racisées cette année.
Ouais. Ouais. C'est drôle que tu parles de l'Ouganda parce que justement, on a une artiste sur le T-Dance qui est une artiste queer, femme ougandaise, qui va jouer sur le T-Dance, qui est une de nos plus grosses soirées.
Wow. Mais c'est aussi une manière personne de parler. Brave, une personne brave. Là, on
une
parle
personne
de tout
très
un...
brave.
Ah oui.
Et d'ailleurs, justement, avant de faire le... J'ai même demandé à cette personne-là et à son équipe si ça valait la peine de publier que cette personne-là va faire partie dans... Parce qu'on est quand même la plus grande fierté francophone au monde. Donc, la personne, justement, est très brave. Elle dit oui, let's go. Fait que, en tout cas, c'est quelque chose.
Fait qu'elle vient de l'Ouganda.
Elle vient de Kampala, puis elle va faire d'autres choses.
Wow, c'est vraiment quelque chose. Et justement, parlons de ces têtes d'affiche cette année qui s'inscrivent dans cette volonté de dire « wow, là, on va se visibiliser mm-hmm. ». Parlons de ces gens-là. Qui sont là cette année?
Mais dans les têtes d'affiche, il y en a beaucoup, mais il y a aussi Mais c'est pas seulement des personnes qui viennent de nos communautés, c'est aussi des personnes qui sont nos alliés.
Oui, ben le A, hein, parfois, oui.
Exactement, voilà, il y a notre show d'ouverture avec Clope Elgargue, on va avoir Joe Bocan, qui d'autre qui est là-dessus? Edith Butler, il y a Lumière, il y a Canon, il y en a vraiment beaucoup. Puis après.
Et ça, ce show-là, ça va se passer au parc Émilie Gamelin, parce que je comprends bien, vous avez deux endroits, vous allez vous promener d'un à l'autre, là, c'est ça?
Non, en fait, c'est ça. Cette année, on est sur deux fins de semaine.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire du 3 au 13 et de jeudi 3 au dimanche 6, on est au Jardin Gamelin, oui. Dans le village et les alentours. C'est vraiment juste à partir du mercredi 9 août, qu'on ouvre le parc olympique avec les grands shows à IMIX. Mais en fait, on part un peu en crescendo, si tu veux. Fait qu'on commence un peu local et tout, puis on part sur des grands spectacles sur l'esplanade, quoi. Le High Pride, je pense.
Le High Pride.
La semaine suivante. Et donc voilà, c'est. Ouais. Je ne me rappelle plus, c'est à quoi ta question.
Ah, je parlais des grandes têtes d'affiche. Je sais qu'il y a plusieurs grands spectacles. Moi aussi, ouais. Là, j'ai pris connaissance du communiqué assez rapidement aujourd'hui. Puis effectivement, il y a tout plein de grands noms qui sont là. Mais. Les grands noms ne sont pas... Il n'y a pas juste ça. Vous essayez aussi d'attirer des gens avec des grands noms pour voir les gens peut-être moins connus. Excuse-moi.
Ben, oui. J'ai lancé des fleurs à Chris parce qu'il y a une chose qui est exceptionnelle dans ce que Chris fait, c'est le dépistage d'artistes queer. Mm. Ben, oui, donc des grandes têtes d'affiche, mais Chris fait attention aussi de s'assurer qu'on va des artistes émergents. Le spectacle qu'il parlait tout à l'heure, le 9 août, qui s'appelle E-Mix, ben c'est un amalgame d'artistes très établis, comme des Edith Butler, des Clope Elgargue, puis bon, tout ça, et avec des artistes émergents. Donc oui. Là, on a des gens qui vont venir pour voir les artistes établis, qui vont découvrir les artistes émergents. Et ça, c'est très important. C'est dans la mission de l'organisation. Mm-hmm. On est un festival à la base. Donc, de cette découverte-là, puis de se visibiliser. Mm. Puis tous les grands festivals, les autres grands festivals à Montréal et au Canada nous regardent. C'est sûr que ces personnes-là vont venir aussi à notre festival, vont découvrir et peut-être vont être après ça bookés par d'autres festivals. C'est le travail que Chris fait. Chris lui-même est un artiste, donc vient de tout ce milieu-là, donc opère à tous les niveaux. Puis c'est une force de notre programmation.
Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, à l'époque, à la relève, c'est des genres de spectacles que j'aurais voulu voir pour moi. C'est des grands spectacles où tu as des personnes qui sont connues, établies, qui partagent la même scène avec des personnes de la relève. C'est une chance pour ces personnes-là d'être vues, d'être visibilisées. Et je vous jure qu'il y a des personnes qui vont se ramasser dans les mêmes shows ou que ça serait juste probable chez Fierté Montréal et que ça serait jamais probable ailleurs. Fait que pour ça, on est vraiment fiers.
L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
On poursuit donc notre discussion avec Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal, et Chris Ngabonziza. J'ai toujours de la misère à donner ton nom, puis je m'en excuse.
Ngabonziza.
Pourtant, je l'ai pratiqué, pourtant, puis on se connaît depuis longtemps, c'est ça qui est de pire. Mais moi, je te connais comme Chris tout court.
Alors, ben correct.
Directeur de la programmation. J'ai appelé ça la renaissance de Fierté Montréal, quand j'ai fait j'ai fait de la préparation de l'émission. On parle donc on revient sur ces spectacles parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des spectacles. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les personnes. Il y a le spécial féminix. Mm. Ah, d'ailleurs, pourquoi on met le... Moi, je le sais, mais peut-être de nous dire pourquoi on fait MX, féminix, latinix...
Ben, il y a le X, justement. Tu veux en parler, le X, Simon?
Non, vas-y, tu le fais.
Non. Non, parce que le X, en fait, c'est c'est la lettre qui représente un peu tout le monde. C'est parti en 2021 quand le slogan était « Ensemble pour tous ».
Oui.
Puis ça a l'air que la lettre X, bien, c'est la lettre qui... c'est la lettre de l'inclusion de tout le monde.
Oui, oui.
Fait que même si c'est un spectacle pour les femmes de la diversité, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir aussi des personnes. Mais il y a on met l'accent sur, mettons, au féminique, c'est le spectacle pour la femme de la diversité, mais ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres artistes, d'autres communautés qui viennent faire la fête avec. En fait, ça, c'est vraiment un thème qui revient souvent dans nos spectacles, où on conçoit des shows ou des spectacles pour célébrer une communauté en particulier, mais ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres personnes qui viennent se joindre au party, en fait.
Parce qu'on ne veut pas que ça devienne un party. Mais ça n'a jamais été Fierté Montréal, un party de ghetto, de toute façon.
Ça, c'est pas que de l'histoire. Oui. C'est ça.
Mais c'est intéressant de le souligner même dans les mots, dans les termes.
Dans les nominations. Ouais.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes non. Je pourrais dire de personnes non queer qui viennent à nos événements.
Oui, absolument. Ouais. Absolument. Puis je dirais, c'est fondamental. Puis les alliés, cette année, on en a parlé un peu tout à l'heure, le contexte sociétal actuel, les alliés sont plus importants que jamais.
Oui, tout à fait.
Parce que la pression sur nous est énorme. C'est dur à porter, c'est lourd à porter, c'est pas nouveau. Et là, quand il y a, c'est même au niveau politique, il y a des mouvements bizarres, ça nous prend nos alliés. Puis moi, je regarde ce qui s'est passé dans les derniers mois, puis est sorti un certain politicien que tu as nommé, que je nommerai pas, mais qui se sont fait ramasser dans les médias. Par qui? Par des alliés.
Tout à fait.
Et ça, là, c'est formidable. C'est de voir, puis là, je vais nommer, de voir des Paul Arcan ou des Patrice Lagacé qui se lèvent et dire, ils vont les regarder, ils vont dire, ça n'a pas de sens ce que tu fais. Mm-hmm. C'est formidable. C'est ça qu'on a besoin.
Exact.
Dans notre programmation, on a besoin d'alliés et aussi, sur le site du festival, on a besoin d'alliés aussi. On veut voir nos alliés. Puis c'est ça, c'est tout à fait cohérent avec notre mission.
Les spectacles, habituellement, sont gratuits, c'est toujours le cas?
Mm-hmm. 95% des spectacles sont gratuits. Donc, tout ce qui est au Parc Olympique, tout ce qui était au Jardin Gamelin, c'est gratuit. L'année passée, on avait expérimenté dans différents lieux. Cette année, on est allé un petit peu plus loin. Fait que quelques spectacles sont payants. Donc, on a quelques spectacles payants au National. Et aussi, Chris a une série intéressante à la SAT aussi qu'on va avoir dans le Dôme. Puis, c'est ça. Fait qu'on est aussi au Club Soda. Fait que quelques événements payants. Je le dis, ils sont pas encore... que les gens n'aient pas tout de suite en ligne, là, c'est dans quelques semaines qu'on va lancer les ventes pour ces événements-là. Mais aussi, puis je dois le dire, on doit aussi, je vais le mentionner parce que pour les festivals, puis pas tous les festivals, c'est pas une année facile. Depuis l'année passée, les coûts de production des festivals ont explosé. Et les coûts de production ont explosé de 20, 25, 30 %. Et ça veut pas dire que notre financement a augmenté. Mm-hmm. C'est-à-dire que nous, il faut se poser des questions, il faut regarder nos modèles d'affaires. Puis, fait que là, on s'est dit, OK, on va y aller tranquillement. Est-ce qu'on peut aller chercher un petit peu de revenus de ce côté-là? Il faut vraiment diversifier nos revenus. On ne peut plus seulement compter sur le gouvernement et les commanditaires. Il faut regarder ailleurs.
Ouais. Justement, parlons de ses partenaires. Il y a la TD qui est toujours là depuis pratiquement 17 ans. Donc, elle est là depuis presque 17 ans.
La deuxième année.
Ouais. L'Auto-Québec. Là, cette année, il y a Radio-Canada.
Oui. Oui, Radio-Canada, ça s'est ajouté. Radio-Canada, on était en discussion avec les gens de Radio-Canada même avant la fierté l'année passée. Puis fait que ça fait longtemps que ça avançait. Puis oui, fait que Radio-Canada rentre comme c'est un grand partenaire cette année, grand partenaire média. C'est ça, on va avoir une belle visibilité de ce côté-là. On a bien hâte de voir là, tout ce qu'on va développer avec Radio-Canada.
Mais ce qui est intéressant, parce que Radio-Canada, quand même, c'est d'un bout à l'autre du pays. Ouais. Donc, pour la francophonie, puis on le redit encore, c'est le plus grand festival queer, la plus grande fierté francophone du monde. Là, plus grand qu'à Paris, parce qu'à Paris, c'est une marche des fiertés.
Ouais, c'est une marche. C'est pas toute la même ampleur. C'est sûr que la marche des fiertés est énorme.
Oui.
Mais si on regarde
j'y serai cette année, alors.
Bon, mais la marche des fiertés n'a pas les ressources qu'on a. C'est une organisation bénévole qui opère sur un budget de, je pense, c'est 100 000 euros.
Ouais.
Qui fait des miracles, mais nous, c'est vraiment autre chose qu'on produit.
J'aimerais revenir sur le défilé cette année. Est-ce qu'il y a un thème au défilé? Là, je suis certain que vous êtes bien préparé, puis il y a probablement déjà 300 000 de bénévoles d'alignés.
Non, il n'y a pas de thématique. La question des thématiques, puis les couleurs, puis tout ça, non, il n'y a pas de thématique. Okay. C'est vraiment, on avait Ensemble pour tous, là, Chris l'a mentionné, c'est encore ça. On veut tout le monde, on ne choisit pas de couleur, c'est pas ça. On veut que tout le monde se retrouve comme il et elle le souhaite. Puis oui, on a beaucoup mieux structuré le défilé cette année. Ça, je vous le dis, on a mis une structure en place beaucoup plus solide. Mais on est encore en recrutement. Ça, c'est vrai. Ça va très bien, mais parce qu'on a autant des personnes qu'on paye qu'on a de bénévoles. Mm-hmm. Fait que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés, allez sur notre site web, puis vous allez trouver les liens facilement.
Fierté Montréal.
fiertémontréal.com.
.com.
Notre nouveau site web, d'ailleurs.
Ben oui. Ben justement, là, on a un petit peu parlé on a parlé de la programmation, mais on a parlé des changements fondamentaux. Mm. Mais il y a un changement d'image qui est très beau, là. C'est un beau changement. Et ça aussi, je pense que ça faisait partie de votre réflexion sur OK, on fait le ménage sur le passé, puis on recommence à neuf.
Ben oui, puis non. D'abord, il y avait. Je vais le dire simplement, on avait du financement qui était disponible pour ça. Il fallait le dépenser.
D'accord.
Bon, il y avait ça. Fait que ça tombait très bien. Mais il y a aussi que il y avait une confusion entre Fierté Montréal, le festival, le défilé, puis tout ça. Il fallait trouver une manière de différencier les choses. Fait qu'on a donné comme mandat à la firme avec qui on a travaillé, qui est géniale, qui s'appelle 288, de vraiment développer une identité propre à Fierté Montréal et une signature pour le festival. Ce qui nous permet, donc Fierté Montréal est vraiment cette entité-là qui est très mal connue. Cette année, on a fait des sondages, entre autres, on a fait une planification stratégique, on a consulté des communautés. On s'est rendu compte que le défilé est connu par 90 % de la population. Le festival par 80, l'organisme par 60 % de la population. C'est normal que le défilé soit plus connu, c'est la base de tout. Mais nous, on veut que l'organisme soit mieux connu, on est fiers de ce qu'on fait. Donc, ça faisait partie du mandat. Donc, s'il vous plaît, trouvez une signature spécifique pour Fierté Montréal, donc un nouveau logo, puis une signature pour le festival et le défilé et toutes les autres activités.
Et c'est beau. Je l'ai vu, quand je l'ai vu, je trouvais ça beau. Je trouvais que c'est simple aussi, puis oui, c'est facile à reconnaître. Revenons sur le site. Il y a des gens qui trouvent ça un petit peu loin. Bon, il faut dire que maintenant, j'ai bien vu que Fierté Montréal, cette année, on a bien dit que c'est pas mal partout dans la ville, là. Qui n'est pas de mauvaise chose en soi. Le site, cette année, c'est quand même le site principal, c'est toujours encore l'esplanade du Stade
Parc
olympique.
Parc olympique, oui.
Qu'est-ce qu'on va faire pour ceux qui trouvaient que c'était un peu loin ou qui c'est vrai que c'était la première année l'an dernier, peut-être que les choses vont changer.
En fait, moi, je ne pense pas qu'il y ait encore des gens qui se plaignent que c'est encore là.
Ben,
on avait l'impression
on a fait des sondages, puis il y a des gens encore qui sont pas satisfaits. Puis ils disent, vous devriez mettre des navettes, puis tout ça. Puis moi, je dis, des navettes.
Il y a
Montréal,
métro.
Exactement. Merci. Donc, prenez le métro, la navette, elle dure 9 minutes. Mais c'est ça. Puis on a pris cette décision-là. C'est quand même. Puis je le dis, on aurait pu décider à l'esplanade des festivals, donc au quartier des spectacles. Puis on s'était dit, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles on n'est pas allé là. Mais entre autres, c'est quand tu es au quartier des spectacles, les chances que tu retournes dans le village sans arrêt, sans consommer ailleurs, sont diminués. Mm-hmm. En étant au Parc olympique, c'est un site fermé. On ne s'attend pas à ce que les gens découvrent Hochelaga en sortant de Fierté Montréal. Le transfert se fait directement. On ne perd pas du monde. Les gens vont dans le village directement. Fierté des spectacles, ça aurait été une autre histoire. Mm-hmm. Puis juste revenir, le dernier site qu'on avait, le Parc des Faubourgs, on ne rentrait plus.
Je me rappelle de ça, oui.
Ça ne rentrait plus. Et l'année passée, on a fait la preuve. Après des faubourgs, ça rentrait 12-14 000 personnes. L'année passée, on a eu des choix à 25 000 personnes.
Oui, quand même.
Je pense qu'on a démontré qu'il y avait un besoin. Puis le Parc olympique, on aime ce lieu-là. On peut vraiment le personnaliser. Mm-hmm. Cette année, on va encore le faire évoluer. On veut améliorer. L'année passée, une première année. On va continuer à l'améliorer. Puis autant pour la clientèle qui vient que pour les artistes, que pour vraiment tout le monde.
Moi, je trouve qu'au niveau du son, c'était une nette amélioration. Par rapport au parc avant.
Oui,
nette amélioration. Oui. Il y aura toujours deux scènes cette année, oui?
Il y aura toujours deux scènes, la scène TD et la scène Loto-Québec.
Et on a encore quelques minutes, les journées communautaires, ça a lieu aussi cette année. Mmh. Sur deux jours, on a gardé le concept des deux jours.
Puis il y en a qui veulent aimerait qu'on ajoute plus de journées, puis plus de rues, puis tout ça. Là.
Ouais.
En fait, présentement, les inscriptions vont tellement bien que là, on va rencontrer la SDC, voir si on pourrait avoir des petits bouts de rue en plus, parce que ça rentre de moins en moins.
Je vais interviewer le nouveau président de la SDC dans une prochaine émission. Peut-être qu'on pourra en parler. Alors, comme je dis, c'est toujours gratuit. Les gens qui ont besoin d'informations, là, je sais qu'on est, on est rendu au 22, on est au 22 mai.
Oui.
On vient de sortir de la programmation, mais si les gens ont besoin d'informations, ils vont sur le site web.
Toutes les informations là, sur le festival sont sur le site web.
Et l'application qui va être en marche bientôt?
Oui, mais j'encourage les gens, le site web est très performant. Fait, allez sur votre téléphone, c'est mieux qu'une application.
Puis il y a toujours aussi nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook.
Ouais.
Alors, des bébites dans le ventre, on va commencer à en avoir maintenant?
Oh oui! tout à fait, oui.
Mais messieurs, ouais. On a vraiment fait le tour. J'avais d'autres questions, mais on devra refaire ça lors d'une autre émission. Je voudrais donc remercier mes invités, Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal, Chris Ngaboziza, qui est directeur de la programmation de Fierté Montréal. Merci à vous deux. Merci, bon festival, bonne fierté.
Merci Denis Martin.